Il est temps de vous présenter, Philippe Breton. Je voudrais d'abord vous remercier beaucoup d'être venu d'une capitale européenne jusqu'à la capitale de l'Europe, de Strasbourg à Bruxelles. Vous êtes anthropologue et sociologue, enseignant à l'Université de Strasbourg et chercheur au CNRS. Vous travaillez dans le domaine de la communication et spécialement sur les techniques et les mécanismes de l'argumentation. Vous avez notamment publié « Le culte de l'Internet, une menace pour le lien social » en l'an 2000, ce petit livre vert et jaune. On attend prochainement la traduction américaine de cet ouvrage. Et puis, pour compléter ce discernement opéré sur le langage dans nos sociétés numériques, vous avez écrit un traité de la communication verbale en forme de plaidoyer « Éloge de la parole » en 2003. D'autres ouvrages dont les titres sont très suggestifs, éloquents. En 2008, « Convaincre sans manipuler, apprendre à argumenter ». En 2009, un essai intitulé « Les refusants, comment refuse-t-on de devenir exécuteur ?» où vous étudiez dans le contexte de la violence de masse les ressorts, les motivations des personnes qui ont refusé de suivre le mouvement génocidaire, qui ont résisté à l'entraînement de l'horreur. Et puis, dernièrement, collaboration avec votre confrère David Le Breton, un texte intitulé « Le silence et la parole, contre les excès de la communication ». Vous tenez un blog intitulé « Parole et argumentation ». En l'an 2000, vous posiez la question sur la menace que représenterait le culte de l'Internet pour le lien social. Vous nous donnerez peut-être la réponse ce matin, en nous aidant en tout cas à découvrir cette parole d'Internet et à mieux comprendre l'homme qui la parle et qui l'écoute. Nous vous écoutons, et puis la parole sera donnée à l'auditoire pour un échange avec des questions et des réponses.
Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre invitation, merci pour votre accueil. Je suis arrivé hier soir, j'ai beaucoup apprécié l'accueil qui m'a été fait. Vous m'avez donc sollicité pour partager quelques réflexions sur les nouvelles technologies de communication et notamment Internet. Alors je tiens à préciser que j'interviens ici, c'est votre demande, j'interviens ici comme chercheur qui travaille depuis un certain temps sur le sujet. J'ai commencé il y a 30 ans, au moment où la micro-informatique faisait émergence, donc où l'informatique sortait des grandes cabines vitrées, où les experts la tenaient enfermée, et où l'informatique est venue, certains d'entre vous s'en souviennent, comme un objet étrange sur nos tables sous la forme des micro-ordinateurs. 10 ans après, ces micro-ordinateurs se reliaient entre eux et on pouvait communiquer grâce à ces machines. Donc j'ai eu le privilège de suivre tout au long de cette période. L'informatique ne date pas d'il y a 30 ans, hein. C'est un petit peu plus ancien, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, parce que je crois qu'il faut, pour bien comprendre les problèmes du présent, il faut les resituer dans un contexte et les resituer dans une durée. Et aussi pour se préparer à l'avenir, il faut revenir un petit peu sur le passé. Donc je reviendrai sur quelques éléments de l'histoire de ces nouvelles technologies. C'est donc bien comme chercheur que je souhaiterais me placer, me positionner ici. J'ai dirigé plusieurs programmes de recherche successivement sur ces thèmes. Et il y a un point sur lequel je souhaiterais me concentrer ce matin avec vous, qui est une analyse, après tout mon domaine c'est la rhétorique, c'est pas les nouvelles technologies, c'est une analyse des discours qui accompagnent les nouvelles technologies. Donc je vous propose d'emblée de faire une distinction entre je dirais, la réalité technique et sociale des nouvelles technologies, ces outils qui n'existent pas, d'une part, sans les usages que nous leur donnons, mais qui n'existent pas non plus en dehors des univers de représentation qui guident l'usage que nous en avons. Non seulement qui guide l'usage que nous en avons, mais qui guide aussi le mouvement d'innovation des techniques. Les ingénieurs, les techniciens qui construisent ces machines ne le font pas en fonction d'une inspiration abstraite, ils le font aussi en fonction d'une demande sociale. Il y a une demande sociale, il y a un imaginaire qui guide ces nouvelles technologies. Et les techniques que nous avons aujourd'hui auraient pu être autres dans notre société si notre imaginaire avait été différent. Il n'y a donc pas de déterminisme de ce point de vue-là, c'est un point sur lequel je reviendrai. Donc il me paraît crucial d'essayer de comprendre, d'analyser ensemble, de décoder, et ça permet à chacun de se repérer dans cet univers, les différents types de discours qui, encore une fois, donnent du sens à Internet et qui guident non seulement notre réflexion, mais notre usage. Alors, c'est ce que j'appelle les discours d'accompagnement des nouvelles technologies. Ils sont divers, ils sont variés, encore une fois, ils nourrissent nos représentations. Donc je vous propose dans un premier temps de démêler, de faire une disjonction et de nous concentrer plutôt sur ces discours d'accompagnement, étant entendu que ces discours d'accompagnement ont des effets. Et dans la dernière partie de mon exposé, je reviendrai de façon non pas critique, encore une fois j'ai une position de chercheur, mais en essayant de faire un bilan des effets de ces nouvelles technologies sur le lien social et un certain nombre d'effets de ces discours d'accompagnement des nouvelles technologies me paraissent avoir une portée négative sur certains éléments du lien social. J'y reviendrai à partir d'une notion que je vous proposerai, qui est l'effet table rase. Les discours d'accompagnement des nouvelles technologies, certains de ces discours sont posés sur un effet table rase, c'est-à-dire il faut tout liquider pièce à pièce, et il faut reconstruire à partir des nouvelles technologies, il faut reconstruire le lien social à partir des nouvelles technologies. Alors c'est donc cette analyse de discours et des effets que je voudrais vous proposer, mais même si mon discours peut sembler à certains moments avoir une portée un petit peu critique, je voudrais que l'arrière-plan de ma parole soit entendu. C'est un arrière-plan positif et optimiste sur les nouvelles technologies. Je dirais qu'au fond, nous avons deux choix. Si je devais résumer en une minute mon propos, je dirais on a le choix de considérer que les nouvelles technologies sont une finalité en soi, un monde qui va nous absorber comme une finalité, ou bien que les nouvelles technologies sont un moyen au service de causes, au service de paroles. Et c'est bien évidemment de ce point de vue-là, je crois qu'il faut placer l'optimisme, c'est-à-dire les nouvelles technologies sont, comme beaucoup de techniques que nous avons inventées, vous savez, depuis le paléolithique, nous inventons des techniques, l'outil est en même temps, lorsque nous avons forgé l'outil, c'est en même temps une arme et le moyen de l'agriculture, donc tous les outils sont porteurs d'une ambivalence, sont porteurs d'une dualité. Je crois que les nouvelles technologies, c'est à peu près la même chose. Donc il y a une source d'espoir. Nous pouvons, les nouvelles technologies, comme moyen au service de la parole, sont un formidable moyen que nous pouvons ajouter, je dirais, à notre arsenal, à condition que nous les considérions comme un moyen et que nous écartions le fait qu'elles puissent devenir ou qu'elles puissent être en soi une finalité. Alors, il y a trois types de discours sur lesquels j'y consacrerai une importance inégale. Il y a trois types de discours qui accompagnent, il y en a d'autres, hein, mais il y a trois types de discours qui accompagnent les nouvelles technologies, qui les ont portés, pour un certain nombre d'entre eux, dès l'origine, que je voudrais analyser ici successivement. Hein, je découperai mon exposé très classiquement en trois parties. Trois types de discours. Le premier discours, j'y consacrerai peu de temps, mais il faut quand même le mentionner, qui est le discours de résistance aux nouvelles technologies, le discours de dénigrement des nouvelles technologies. On n'en entend pas beaucoup parler. Il est présent malgré tout dans la toile de fond qui accompagne les nouvelles technologies, et parfois même un certain nombre d'intellectuels, voire de théologiens, je pense à des théologiens protestants, ont développé l'idée que l'envahissement des nouvelles technologies était globalement négatif. Donc il y a donc un discours de résistance qu'il faut entendre, hein, qui n'est pas un discours forcément rétrograde, qui est un discours qui sonne l'alarme aussi, qui pose un certain nombre de questions. Il y a un deuxième discours qui est le discours d'accompagnement des nouvelles technologies, qui est celui qui a été, je dirais, emprunté presque mécaniquement par le monde médiatique, Alors je ne s'agit pas de faire haro sur les médias, mais les médias, ce n'est pas une unité comme ça. Mais c'est vrai que pour comprendre les nouvelles technologies et pour porter à la connaissance du public les innovations, les vagues d'innovations successives jusqu'à Internet, dont les nouvelles technologies ont été prodigues, le monde médiatique, qui n'y connaissait pas forcément grand-chose à ces nouvelles technologies, a utilisé un paradigme assez simple, un paradigme déterministe. Les nouvelles technologies arrivent, débarquant dans ne sait quel monde, dans ne sait quelle planète, et elles provoquent un certain nombre de changements dans notre société. C'est un paradigme explicatif dont je soulignerai les importantes faiblesses, mais qui est celui par lequel souvent le grand public a eu connaissance des nouvelles technologies. Alors que les choses sont plus complexes que cela, et que les nouvelles technologies, on va le voir, rentrent en résonance avec l'univers social dans lequel elles se déploient. Donc un discours de résistance, un discours déterministe, et puis je consacrerai plus de temps à ce troisième partie, un discours apologétique, un discours militant. Il y a des militants d'Internet depuis un certain temps. Des militants, c'est-à-dire au sens fort, qui appuient leur engagement dans Internet sur une idéologie à consonance utopique. Dans le petit ouvrage que vous avez la gentillesse de présenter, Le culte de l'Internet, j'ai essayé de montrer que chez certains de ces militants, il y avait comme le New Age était passé par là. Il y avait une sorte de religiosité qui passait par là, avec d'ailleurs de très mauvais emprunts. On a été chercher Teilhard de Chardin, on se demande comment. Chez ces militants d'Internet, c'était le mot-clé qui donnait le plus de réponses. Je crois que Teilhard de Chardin aurait été tout à fait affolé de l'usage qui a été fait de sa noosphère. Mais bon. Voilà, c'est comme ça. Il y a des formes de religiosité qui sont venues se greffer sur ce discours d'accompagnement qui à certaines périodes et dans certains milieux est le discours dominant. Et le discours dominant qui accompagne Internet, c'est pour ça que je voudrais lui consacrer un petit peu plus d'importance. Et ce discours propose un certain nombre de ruptures, car c'est un discours global, c'est un discours ontologique. Sur le fond, et j'aurai l'occasion de dire tout à l'heure que ce discours est préalable à l'invention d'Internet. C'est lui qui a porté l'invention d'Internet et des nouvelles technologies. Et ce discours propose un certain nombre de ruptures. J'en examinerai quelques-unes tout à l'heure, de ruptures par rapport au corps, de ruptures par rapport à l'anonymat, de ruptures par rapport au droit, de ruptures par rapport à l'intériorité. Donc il y a un certain nombre de ruptures. Et on est là sur des fractures. Encore une fois, là, l'enjeu est extrêmement fort. Parce que c'est la question de savoir comment nous allons penser les nouvelles technologies et la façon dont nous allons diriger nos usages des nouvelles technologies. Et donc là, on n'est pas simplement sur un discours qui serait intéressant à analyser pour lui-même, mais bien un discours qui a un impact social et encore une fois, qui me paraît, moi, dominant et guider les usages dominants des nouvelles technologies et dont je pense qu'il faut mettre en perspective. Voilà donc ce long prolégomène pour situer un petit peu ce que je souhaiterais partager avec vous. Le premier discours, donc trois discours. Le premier, je vais être extrêmement rapide. Il y a un discours qui accompagne, mais c'est un tout petit bruit qu'on entend. Les médias utilisent ce bruit parfois pour organiser des débats contradictoires, parce que sur Internet, il y a eu peu de débats contradictoires. Alors de temps en temps, on va chercher un intellectuel qui, dans son coin, Paul Virilio, Alain Finkielkraut, pour la France, d'autres pour les États-Unis, qui vont dire non, attention à cela, les nouvelles technologies, c'est l'envahissement de la technique, restons humains. Alors on est là dans une opposition entre la technique et l'humain, qui est une opposition qui est discutable, bien évidemment, mais qui sert de fondement pour dire non, les nouvelles technologies, moi je ne les utiliserai pas, moi je continuerai la plume. Donc un discours d'une certaine façon de résistance. Je n'aurais pas la mauvaise grâce de rattacher ce discours au vieux courant qui accompagne l'histoire des techniques, je dirais sans doute depuis l'origine. La première houe qui creuse le sol s'est sans doute vue qualifiée de meurtre à la terre. Il y a un discours de résistance aux techniques, qui est un discours qui a sa fonction sociale, puisqu'il nous alarme d'une certaine façon, et il est précieux. En même temps, ce discours a parfois des effets brutaux, hein, on casse les machines, pour d'autres raisons d'ailleurs, mais enfin, on s'oppose à la technique. Alors, c'est que le mouvement d'hostilité à la technique est un mouvement qui est évidemment tout à fait récurrent. Mais encore une fois, c'est un mouvement d'alarme, le mouvement anti-nucléaire, sur un registre plus anecdotique, quand le chemin de fer a suscité un fort mouvement de résistance au 19e, c'est-à-dire ça va trop vite, l'être humain ne supportera pas la vitesse du train. Bon, les trains de l'époque, évidemment, le passage dans les tunnels sera une réduction ontologique fondamentale. Bref, bon, il y a eu tout un mouvement d'hostilité qui évidemment à chaque fois s'efface, mais se réinvestit dans les technologies qui viennent par la suite. Je remarquerai là que le mouvement écologique, qui était un mouvement notamment pour les écologistes radicaux qui très en délicatesse avec un certain nombre de techniques, ne l'est pas du tout vis-à-vis des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies ont toujours trouvé une place très très forte dans des mouvements qui opposent une certaine résistance à certains progrès techniques. Alors je dirais dans le domaine du discours de résistance, l'homme qu'il faut citer, parce que c'est celui qui sonne l'alarme de la façon la plus intelligente, en s'appuyant sur une éthique, c'est Jacques Ellul, qui dès 1947, c'est-à-dire au moment même de l'invention de l'ordinateur, puisque l'ordinateur a été inventé en 1947, Jacques Ellul publie aux États-Unis un livre sur où il met en garde sur l'envahissement du système technicien. Notre société, les techniques sont en train de se mailler entre elles et donc d'enserrer le tissu social, et nous allons être en quelque sorte débordés, envahis par le monde technicien. Alors c'est évidemment une réflexion qu'Ellul nous propose et qui l'articule lui sur ses conceptions éthiques, qui, je dirais, est l'alarme la plus intelligente que nous ayons dans ce domaine. Alors voilà, donc un premier discours, je ne vais pas plus loin. Il a été rapidement balayé, à la fois par, je dirais, la présentation médiatique qui a été faite des nouvelles technologies, puis par la réalité des usages. Nous pouvons dire que nous continuons à la plume, mais plus personne ne travaille à la plume. D'abord, nous sommes passés à la machine à écrire, puis très rapidement, nous sommes passés aux nouvelles technologies. Mais ce discours, j'insiste encore, est un point d'alarme qui mérite d'être entendu. Le deuxième type de discours, je l'ai dit, c'est un discours que je qualifierais de déterministe, qui me semble, comme tout déterminisme, un discours dont l'effet est de nous empêcher de comprendre la complexité sociale, de nous empêcher d'évaluer les effets négatifs et positifs. Ce discours déterministe correspond à la façon dont, je l'ai dit, les médias... Le problème des médias, c'est de rendre compte de la nouveauté. Et rendre compte de la nouveauté, ça veut dire rendre compte d'une culture qui n'est pas forcément la culture de ceux qui doivent la porter à la connaissance du public. Il y a donc un effet de débordement. La nouveauté, et encore plus dans le domaine des nouvelles technologies, où il y a des effets de débordement réguliers. On a été de décennie en décennie, maintenant on va de 5 ans en 5 ans. Bon, il y a un effet d'accélération des nouvelles technologies et de leurs effets, de leurs impacts sociaux. Du coup, il y a un paradigme qui s'est imposé, qui est le paradigme sans doute le plus populaire dans le domaine. C'est un paradigme qui consiste à dire, ben voilà, dans le secret de leur laboratoire, les techniciens inventent des nouvelles machines, ces nouvelles machines débarquent dans notre société et elles provoquent des bouleversements dans le monde social. Elles provoquent des bouleversements, il y a donc des effets sociaux des nouvelles technologies, on est devant une révolution contre laquelle finalement on ne peut rien. On est là sur un point de vue tout à fait déterministe, qui date des années 50, c'est une vieille thématique. Ce point de vue déterministe s'infiltre partout. Alors je vais vous donner un exemple dans l'actualité récente que vous connaissez. Moi, j'ai fait plusieurs chroniques là-dessus parce que je trouve qu'on était sur un déni de réalité. Lorsqu'on nous présente les mouvements, les très importants mouvements sociaux de fond qui ont traversé le Maghreb, Tunisie, Égypte en particulier, mais d'autres pays du Maghreb, vous suivez l'actualité comme moi, et qui a été interprété par un certain nombre de commentateurs, de journalistes, comme les révolutions Facebook. Alors voilà que vous cherchez à comprendre le plus intelligemment possible ce qui se passe dans ces pays, ces mouvements de fond dans des situations que vous savez bien extrêmement complexes. Ben, on vous en propose au fond une solution, une explication très très simple qui va vous satisfaire. Jusque-là, Rien ne pouvait s'exprimer, mais grâce aux nouvelles technologies, en particulier à Facebook et aux réseaux sociaux, eh bien, des révolutions démocratiques peuvent avoir lieu. Bien. Alors, je crois que là, il faut profondément se défier de ce type d'explication extrêmement simpliste, extrêmement déterministe, que Facebook ait pu, comme outil, jouer un rôle, bien évidemment, dans la propagation de l'information ou dans les mobilisations. Personne ne peut le nier, comme le tract, comme la radio, mais bien sûr, tous les médias servent, sont les outils des mouvements de fond. Mais venir dire que ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie vient des nouvelles technologies et n'a pu advenir que vis-à-vis des nouvelles technologies, que grâce aux nouvelles technologies, voilà un bel exemple de déterminisme technique qui nous dit, ben voilà, enfin, grâce aux nouvelles technologies, quelque chose peut se passer. Ce point de vue déterministe n'a aucun fondement réel. Hein. Les historiens des techniques connaissent bien ce mécanisme. À partir d'une loi qui se vérifie tout au long de l'histoire des techniques, qui est qu'une technique de communication ou d'autre a toujours besoin, pour s'implanter dans une société, de rencontrer ce qu'on pourrait appeler une résonance sociale. C'est toujours une dialectique, l'implantation d'une technique dans une société. Et il ne suffit pas d'amener une technique dans une société pour qu'on l'utilise. Donc si on l'utilise, c'est qu'il y a bien des raisons de l'utiliser. Et en histoire des techniques, on ne manque pas d'exemples. Joseph Needham, le formidable historien des techniques chinoises, nous rappelle à quel point cet exemple majeur en histoire des techniques, ce sont les Chinois, vous le savez, qui, entre le 11e et le 13e, inventent l'imprimerie. Ils inventent tous les dispositifs techniques complexes, de la gravure jusqu'à la presse, qui donneront l'imprimerie, et les Chinois ne s'en sont pas servis. Et il y a beaucoup d'exemples, le cimetière des techniques qui n'ont pas servi, parce que les sociétés dans lesquelles l'innovation a été faite ne les a pas acceptées, ce cimetière est rempli, bien évidemment. Vous savez que pour l'histoire de l'imprimerie, c'est l'Occident qui a réimplanté l'imprimerie en Chine au 19e. Donc, il ne suffit pas, encore une fois, et Needham nous propose une analyse très fine de la façon dont la société chinoise ne rentrait pas, pour un certain nombre de raisons, je ne vais pas développer ici, ne rentrait pas en résonance avec cette formidable nouvelle technologie qui était l'imprimerie. Il y a un autre petit exemple qui est maintenant un petit peu désuet, mais ceux qui ont connu le fax, à l'époque où nous avons découvert, il y a une vingtaine d'années, le fax a été probablement sur le plan de l'émotion, la nouvelle technologie qui a été, je dirais, la plus forte, parce qu'on pouvait envoyer quasi instantanément une trace de soi, un dessin, un texte, une photo, la passer dans une machine en sachant que de l'autre côté, l'autre la recevait quasi instantanément. Le fax était une machine tout à fait formidable. Il y a 20 ans, le fax a été inventé à la fin du 19e. Il n'a pas servi. Il a commencé à servir quand la société a été prête d'une certaine façon à l'accepter. Le téléphone, c'est pareil, le téléphone est une très vieille invention. Hein. Il a commencé à se développer véritablement dans le monde rural américain au moment où l'éloignement des fermes a commencé à poser un certain nombre de problèmes de fond. Avec l'extension des parcelles agricoles, les fermes se sont éloignées, et c'est là que le téléphone a commencé à se mettre en place. Le téléphone s'est développé. Vous savez qu'au début, il y avait aux États-Unis d'abord des réseaux téléphoniques de communauté. Hein. C'est-à-dire les avocats avaient leur réseau téléphonique, les médecins avaient leur réseau téléphonique. Et puis tout ça, c'est interconnecté. Donc la question, pour rompre avec ce paradigme déterminisme, la question est toujours la même. Qu'est-ce qui change en profondeur dans une société pour que une technique s'y déploie massivement? Je crois que c'est ça la bonne question. Qu'est-ce qui change? Et évidemment, on va la poser pour Internet. Qu'est-ce qui change dans notre société pour qu'il y ait un si fort taux d'acceptabilité, sinon de désirabilité, si vous me permettez ce néologisme, de ces nouvelles technologies? Si notre société était différente, nous regarderions peut-être Internet comme une formidable invention et nous la rangerions dans un musée et nous n'en servirions pas de la même façon que les Chinois ont regardé l'imprimerie comme une formidable invention artistique et qui ne s'en sont évidemment pas emparés dans leur quotidien. Et quand on suit l'histoire des nouvelles technologies de communication, une histoire que moi je fais remonter aux années 40, parce que c'est vraiment dans les années 40 qu'à la fois est née ce discours de valorisation des nouvelles technologies de communication au sein d'un domaine qui s'appelait alors la cybernétique, et dont le, je dirais, le personnage principal est Norbert Wiener. En même temps, le discours d'accompagnement et en même temps les techniques qui ont permis d'une certaine façon de réaliser ce discours d'accompagnement, dans un premier temps l'ordinateur, dans un grand ordinateur, dans un deuxième temps la micro-informatique, dans un troisième temps les réseaux, et dans un quatrième temps aujourd'hui ce qu'on peut appeler les réseaux sociaux et un certain nombre d'usages d'Internet. À chaque moment du développement des nouvelles technologies, c'est construit en même temps, ou était là en préalable, une acceptabilité des nouvelles technologies. Lorsque Norbert Wiener, dans les années 40, soutient l'idée que la communication doit prendre une place centrale dans nos sociétés, ce qui n'était pas un thème dominant à l'époque, qui est devenu un thème dominant, un thème tellement dominant que nous avons oublié de voir que c'était un thème historique qui avait fait émergence dans notre culture et dans notre imaginaire. Lorsque Norbert Wiener dit il faut que la communication, il faut enserrer les hommes dans des réseaux de communication. Pourquoi ? Norbert Wiener nous le dit, il nous dit, pour éviter le retour de la violence et de la bestialité que nous venons de connaître. C'est-à-dire que la première pensée, et on va voir que c'est un thème qui va être récurrent, la première pensée qui accompagne les nouvelles technologies, c'est la question de la violence. De la violence sociale. Est-ce que les nouvelles technologies, est-ce qu'enserrer l'homme dans des réseaux de communication qui les rendent plus solidaires, mais solidaires au sens technique, pas solidaires au sens éthique, ne va pas précisément empêcher le retour, le déchaînement de cette violence dont à la fin des années 40, évidemment, l'humanité est profondément marquée. Un sous-ensemble de cette question, et qui va conditionner de façon incroyable le développement de la première informatique, va être la rationalisation de la décision humaine. C'est un thème qui est très présent dans les années 50, qui l'est encore aujourd'hui, la rationalisation de la décision humaine. Est-ce que l'homme est capable de prendre des bonnes décisions ? Est-ce que l'homme est capable seul de prendre des bonnes décisions ? Est-ce qu'il ne doit pas être assisté par... C'est vraiment la question des années 50. Est-ce qu'il ne doit pas être assisté par un système technique qui, porteur d'une véritable rationalité, lui permettrait enfin de prendre les décisions rationnelles qui s'imposent ? Alors voilà. Voilà un élément non seulement d'acceptabilité, mais qui a guidé le développement des nouvelles technologies, et notamment de l'informatique de l'entreprise et de l'administration, puisque ça a été la base, l'informatisation de l'entreprise, de l'administration et de l'appareil militaire, et l'appareil militaire qui est celui qui a le plus résisté. L'appareil militaire a le plus résisté aux nouvelles technologies et à l'informatique, au nom d'une conception entre guillemets éthique de la guerre, c'est-à-dire la guerre ça se fait d'homme à homme, et non pas de machine à machine. Et ce courant de résistance, d'ailleurs, existe encore à l'intérieur de l'institution militaire. Dans le monde de l'entreprise, l'informatique s'est considérablement développée au nom de l'idée qu'il fallait rationaliser les décisions. L'informatique s'est développée de façon complètement irrationnelle, puisque, sur le plan technique, l'univers des machines mécanographiques suffisait largement à la tâche, et il y a eu, d'une certaine façon, un grand gâchis économique pour remplacer un parc de matériel qui marchait bien par une informatique qui, grosso modo, faisait quand même ses premiers pas. Alors, on est là, dans ce rapport entre l'acceptabilité sociale et le développement des nouvelles technologies. Je vous ai apporté un document historique que je tiens beaucoup, qui jaunit d'année en année, qui un jour disparaîtra. Enfin, on l'a encore. C'est un article du journal Le Monde du 28 décembre 1948. L'ordinateur n'existe pas encore. Il sera le premier ordinateur inventé par à la fois Alan Turing en Angleterre et von Neumann aux États-Unis fonctionnera dans grosso modo 6 mois, 1 an, mais on en parle déjà. C'est une pleine page du Monde qui est signée par le père Dubarle, physicien et anthropologue, qui a enseigné à la faculté théologique de Strasbourg. J'ai eu l'honneur de faire mes premiers pas d'étudiant dans son séminaire. L'informatique n'existe pas encore, il y a une pleine page. Je vous en recommande la lecture si vous trouvez le document d'archives, je l'ai publié. Il annonce à peu près tout le futur de l'informatique. C'est très étrange. C'est-à-dire que ce ne sont pas les nouvelles technologies qui nous proposent leur futur. C'est un futur qui est pensé dans lequel l'innovation technique va, en quelque sorte, réaliser un plan d'action. Alors ce texte, pour moi, est tout à fait fondamental. Encore une fois, l'informatique n'existe pas. Un ordinateur dans le monde. Pourtant, Tout ce texte nous décrit tous les usages, y compris, ce qui est absolument formidable pour l'époque, l'interconnexion des réseaux. Alors le texte s'appelle « Vers la machine à gouverner ». Alors Dubarle se pose là en homme de réflexion, c'est-à-dire à la fois il s'enthousiasme pour les nouvelles technologies, en même temps il réfléchit aux bornes éthiques qu'il faudrait poser et aux problèmes que cela soulève pour le lien social. Alors on pourrait passer la journée à travailler sur ce texte formidable. Je veux juste simplement en retenir une phrase que je connais par cœur et qui est ici, qui nous dit « Nous pouvons rêver à un temps où la machine à gouverner viendrait suppléer, pour le bien ou pour le mal, qui sait, l'insuffisance aujourd'hui patente des têtes et des appareils coutumiers de la politique. » Tout est dit. On est dans les années 40. La politique, les politiques, la gestion humaine des affaires n'a pas permis d'éviter la catastrophe. Elle ne permet pas de gérer rationnellement les sociétés humaines. Inventons donc des machines qui vont permettre de prendre à notre place un certain nombre de décisions. Je veux dire que c'est le cas, nous ne le voyons pas, mais le nombre de décisions qui sont prises dans notre vie quotidienne par des machines sont des petites décisions, elles ne sont pas des décisions intelligentes au sens de l'intelligence humaine, mais ce programme a été en partie réalisé. Comment prendre de bonnes décisions rationnelles? C'est le problème de l'époque, c'est le problème des années 50, auquel les nouvelles technologies tentent d'apporter une réponse. Quelle est la question aujourd'hui auquel les nouvelles technologies tentent d'apporter une réponse? Et quelle est la question à partir de laquelle nous orientons, nous guidons notre usage des nouvelles technologies? Alors, il y a là un chantier à ouvrir, l'Internet est trop neuf, mais je dirais, en guise d'hypothèse de départ, qu'il faut peut-être aller chercher du côté de la question de l'époque, qui n'est plus tellement celle de la décision, pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que le libéralisme est passé par là, et le libéralisme, vous le savez, résout en partie la question de la décision, puisqu'il retire le pouvoir aux appareils centraux pour la remettre d'une certaine façon sur la loi du marché. Donc, et Internet est le formidable outil, de la théorie libérale, pas uniquement économique et politique. Mais en même temps, Internet vient poser une question encore plus fondamentale, qui est cette question qui parcourt les sociétés humaines probablement depuis l'origine, qui est la grande question anthropologique, qui est le réglage que nous cherchons toujours à faire, le réglage entre l'individu et le collectif. Le réglage, quelle est la place de l'individu? Internet vient nous dire une place pour l'individu, vient nous dire la royauté de l'individu en opposition au collectif. Vient être l'outil collectif qui décollectivise la société. C'est un formidable paradoxe, c'est un des paradoxes les plus intéressants d'Internet. C'est à la fois une très forte collectivisation. Je ne peux plus rien faire sans les autres, je suis toujours connecté aux autres, je suis en permanence avec les autres. C'est ça qu'Internet a permis. Ce magnifique texte sur la fin de la solitude nous dit bien à quel point le développement d'Internet, Internet conquiert ses territoires sur la solitude au sens fort, pas sur la solitude au sens négatif, mais la grande conquête d'Internet dans les budgets temps, comme diraient les sociologues, c'est précisément sur le territoire propre de l'individu en collectivisant systématiquement nos activités. J'ai besoin d'une réflexion, je vais chercher une information, je vais passer du temps à une information, je communique en permanence avec les autres. Toutes ces possibilités qu'ouvre Internet sont des possibilités qui vont dans le sens du collectivisme. J'emploie ce terme en sachant la charge dont il est porteur, hein, très, très volontaire. Mais en même temps, c'est un collectivisme tout à fait paradoxal, parce que c'est un collectivisme qui, en même temps, exalte, sous une certaine forme, j'y reviendrai, exalte l'individu et la royauté de l'individu. Royauté de l'individu qui, je le rappelle, est le principe clé du libéralisme, qui dit plus de roi pour diriger des sujets, mais chaque individu devient le roi de son propre territoire. Le libéralisme est un transfert de royauté, d'une certaine façon. Voilà donc un discours déterministe que je voulais analyser, ce discours déterministe qui me semble gommer la complexité des choses. Ce ne sont pas les nouvelles technologies qui changent nos comportements, mais nous sommes dans une société, et cette société accueille avec plus ou moins de bonheur certains développements techniques, et d'ailleurs, vous l'avez dit dans votre introduction, certains développements techniques promus à un immense succès disparaissent 2 ans après. Il faudra s'interroger sur la disparition de Second Life. Alors, où c'était un gadget, mais ce n'était pas un gadget, cette idée d'un deuxième monde dans lequel nous pourrions exister par l'intermédiaire d'un avatar et au fond nous pourrions abandonner progressivement le vieux monde pour aller dans ce nouveau monde, qui est une idée phare, hein, qui est une des bases du discours d'accompagnement d'Internet, ça n'a pas quelque chose n'a pas marché là. Et je ne crois pas que ce soit parce que l'idée soit abandonnée, mais c'est parce que les modalités de réalisation technique n'ont pas suivi. Et il n'est pas exclu que demain, et les réseaux sociaux d'ailleurs sont une forme de remise en scène de Second Life, sous une forme, je dirais, moins caricaturale que cette espèce d'univers de bande dessinée finalement assez naïf, mais l'idée qui est derrière est toujours là. Donc le déterminisme, je crois, est évidemment quelque chose dont il faut se méfier, car au fond, il empêche de prendre en main son propre destin, si ce sont les techniques. Au fond, le paradigme du déterminisme technique, c'est une remise en scène du destin, hein, dans sa forme la plus archaïque pour l'anthropologue. C'est-à-dire, voilà ce qui nous détermine, et nous n'avons plus grand-chose à faire que de l'interpréter et de le suivre. Or, bien évidemment, les nouvelles technologies, nous pouvons nous en emparer. Et c'est bien le lieu aussi d'opposition de points de vue éthiques, de points de vue politiques, de points de vue sociaux. Troisième discours que je souhaite d'accompagnement d'Internet que je souhaitais analyser avec vous, qui est pour moi aujourd'hui le discours dominant. Discours qui est né dans les années 40, discours qui dit au fond, pour le caricaturer un peu, notre vieille société doit être remplacée par une nouvelle société, une société de communication, une société de réseau, une société dans laquelle le corps de l'homme va se virtualiser de plus en plus, une société du virtuel. Et ici, le choix du terme virtuel n'est pas innocent du tout, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est bien de la vertu qu'il s'agit. Et pour les apologues, ceux que j'appelle les apologues des nouvelles technologies, l'apologie du virtuel, c'est bien l'apologie d'une vertu. Et non pas, le virtuel ne sert pas ici à décrire une réalité technique. La vertu du virtuel, c'est de nous sortir de notre corps et de nous transporter dans un autre monde. Il y a un certain nombre de métaphores qui sont utilisées dans ce discours et qui organisent évidemment notre perception. Il y a tout un jeu de métaphores qui met en scène l'externalité des nouvelles technologies. C'est-à-dire, les nouvelles technologies nous servent à composer un monde qui est extérieur au monde réel. Vous savez, il y a le monde réel dans lequel on est, là, il y a des tables, des chaises, du papier, des crayons, des voix qui s'échangent, d'un phénomène acoustique chargé de sens, qui est notre échange, l'échange dans une salle comme celle-ci. Il y a donc le réel, le vieux réel. Vous savez, ce mauvais réel, ce réel de la violence, ce réel du bruit, ce réel de la mort, ce réel de la biologie, ce réel qui nous frustre tant, d'une certaine façon, et nous allons pouvoir le remplacer par un autre réel, par un autre monde. Et toutes les métaphores qui mettent en scène ce qu'on a appelé à un moment le cyberespace, cet autre monde, je quitte le réel, je me connecte, hein, je quitte le réel et je rentre dans un autre monde. On est là dans une métaphore active. C'est une métaphore que moi j'appellerais à peut-être pas se méfier, mais enfin en tout cas à analyser. Est-ce qu'il y a vraiment un autre monde? Est-ce que c'est vraiment un autre monde? Parce que évidemment, dire un autre monde va nous autoriser un certain nombre de choses que nous nous autoriserions pas dans ce monde-ci. Et c'est pour ça qu'il y a cet effet, sur lequel je reviendrai tout à l'heure en donnant 5 exemples concrets, cet effet table rase. C'est-à-dire qu'il faut faire table rase de l'ancien monde. Les nouvelles technologies vont enfin nous permettre de faire table rase, de changer le monde. Et c'est pour ça que les nouvelles technologies capturent le désir de changement. Et évidemment, je ne suis pas à défendre un point de vue jeuniste, mais évidemment aussi dans la jeunesse, qui est, je dirais, l'âme du changement. Les nouvelles technologies, en tout cas cette espèce d'idéologie qui accompagne les nouvelles technologies depuis 50 ans, est venue capter progressivement le goût, le désir de changement, le désir d'améliorer nos sociétés, d'améliorer nos comportements. C'est donc un discours dont il est tout à fait normal, à la fois qu'il capte des métaphores politiques, la révolution. Il y a 30 ans, quand on parlait de révolution, on voyait bien de quoi il s'agissait. C'était tout à fait autre chose. Le mot révolution, dans nos cerveaux, provoquait tout à fait autre chose quand on l'entendait il y a 30 ans. Aujourd'hui, quand on dit révolution, le terme, dans son usage, c'est évidemment, on est plutôt dans la révolution technologique. Ce qui veut dire que la technologie a absorbé, et d'ailleurs il a absorbé le vocabulaire de la révolution, et pour vous le dire, non pas sur un mode anecdotique, mais sur un mode hypothétique, parce qu'il faudrait vérifier l'hypothèse, mais enfin, on a quand même quelques certitudes, le monde des nouvelles technologies a capté, du point de vue de la réalité sociologique, un certain nombre de jeunes gens et de jeunes filles qui, jusque-là, avaient confié à d'autres révolutions le soin de changer la société. Un très grand nombre, je vous le dis comme ça, hein, un très grand nombre de militants d'extrême-gauche dans les années 80-90 ont quitté le terrain politique pour s'investir dans le terrain des nouvelles technologies. Au point que les analystes un peu fins reconnaissent dans le mouvement des militants d'Internet, des communautés, etc., pouvaient reconnaître d'anciennes sensibilités, plutôt d'anciens trotskistes, plutôt d'anciens maoïstes. On pouvait là rentrer dans des analyses plus fines. En tout cas, on a là un discours avec qui utilise un certain nombre de métaphores, la révolution, une métaphore politique, un certain nombre de métaphores empruntées au vieux vocabulaire utopique, le vieux thème de l'utopie, vous savez, qui se renouvelle régulièrement, bien avant Thomas More et bien après lui, c'est-à-dire comment construire la société parfaite, la société idéale. Et je remarque que ce thème de l'utopie a été, du point de vue des nouvelles technologies, a été très fortement relayé par la science-fiction. Alors, la science-fiction joue un rôle très important. La science-fiction, ce n'est pas simplement une littérature secondaire en tant que littérature, encore qu'il y ait de très belles choses en matière de littérature, dans la science-fiction. La science-fiction, vous savez, c'est un genre un peu particulier. C'est, comme j'avais fait, mais comme d'autres, une enquête sur le monde des ingénieurs en informatique et en nouvelles technologies. Ils lisent essentiellement de la science-fiction. Pourquoi ? Parce que la science-fiction, ce n'est pas ce qui va se passer, contrairement à ce que... Ce n'est pas une description de ce qui va se passer, c'est plutôt un imaginaire qui guide le déploiement technologique. Donc la lecture de science-fiction, je dirais, pour l'ingénieur qui conçoit, qui innove dans ces domaines, c'est un guide pour l'action. C'est très étrange, ce renversement temporel. Et je veux citer un exemple tout à fait central, parce que là aussi je le trouve absolument spectaculaire, qui est un grand auteur de science-fiction, Isaac Asimov. Certains d'entre vous connaissent, qui a écrit en 1954, à l'époque où l'informatique était un peu lourdaude, où elle n'était pas franchement interconnectée. Il faudra attendre quand même un certain temps avant qu'on puisse avancer dans ce domaine. Asimov écrit en 1954 un petit livre, qui n'est pas très bon sur le plan littéraire, qui est souvent mal traduit, qui s'appelle « Face au feu du soleil », dans lequel il décrit le monde d'Internet. Alors, c'est très intéressant de lire des textes d'avant les nouvelles technologies qui nous décrivent à la fois les nouvelles technologies et un certain nombre d'usages que certains voudraient impulser aux nouvelles technologies. Face au feu du soleil, c'est une planète où les hommes et les femmes qui l'habitent vivent seuls. Chacun vit seul dans de grandes maisons. Il y a des robots qui s'occupent de l'économie, hein, qui nourrissent et qui travaillent. Il y a comme ça toute une masse d'esclaves mécaniques. Cette question-là est réglée. Donc d'hommes et de femmes qui vivent seuls et qui communiquent en permanence grâce à un réseau qui permet... Alors dans ce monde, c'est très simple. Quand vous voulez manger avec quelqu'un, comme vous vivez seul, ben vous l'invitez virtuellement et puis il y a un hologramme de lui. Voilà, il y a l'autre table, voilà, il y a un hologramme et vous mangez avec lui, vous parlez avec l'hologramme. Quand vous êtes malade, le médecin, c'est un hologramme du médecin. Enfin, bref, c'est un monde dans lequel... Alors pour Asimov, c'est très important de décrire ce monde parce qu'il dit c'est un monde qui a été purgé de toute violence. C'est le monde idéal. 54, hein, dans le thème de la violence. C'est un monde qui a été purgé de toute violence. C'est le monde. Enfin, nous avons trouvé l'architecture sociale qui va construire un monde pacifié. On est en plein dans l'utopie. En même temps, les technologies jouent un rôle tout à fait central, puisque c'est le réseau qui va capturer, qui va capter toutes les rencontres possibles. Toutes les fonctionnalités sociales sont absorbées par le réseau. Hein, on accède au savoir par le réseau, la télémédecine, la télérencontre, la procréation évidemment est artificielle, mais tout ça est absorbé par le réseau. Donc une société idéale, puisqu'il n'y a plus de violence, est enfin le monde débarrassé du mal, à une condition, il y a un tabou dans ce monde, ce tabou est le pivot qui permet de construire cette société idéale, c'est l'interdiction absolue de la rencontre physique. L'interdiction absolue de la rencontre physique. Et il dit, ça fait partie maintenant de la biologie des hommes et des femmes de ce monde, puisque quand par hasard, à 300 mètres de leur propriété, ils se voient, et bien immédiatement, voir quelqu'un physiquement, on commence à avoir des sueurs, des rougeurs, le malaise s'empare, le cœur s'accélère, bref, la biologie se dégrade, on a bien intégré. On a intégré biologiquement ce tabou de la rencontre physique. Enfin, on se rééloigne et on se repacifie. C'est formidable parce que ceux qui connaissent les travaux de Norbert Elias, de sociologue Norbert Elias, qui a travaillé sur la réduction de la violence en Occident et qui associe la réduction de la violence à l'écartement des personnes, à l'éloignement des personnes, il y a une réflexion anthropologique de fond. Ce n'est pas un livre de science-fiction. Ce n'est pas un livre de science-fiction. Et d'ailleurs, il est très mal écrit. Le problème n'est pas là. Le problème est d'une réflexion utopique qui nous dit, qui pose la question du lien social et qui nous dit comment résoudre ce problème fondamental du lien social, qu'est la violence. Une réponse de fond, séparer les hommes, et une réponse technique qui l'accompagne, réorganiser le lien social, car il n'y a pas d'homme sans lien social, mais ce lien social est désormais un lien social de réseau, un lien social virtuel. Alors l'idée qui est au fondement de ce discours d'accompagnement des nouvelles technologies, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vision quasi, je n'emploierai pas le terme théologique évidemment, parce que d'une part il n'y a pas de Dieu dans cette affaire, mais c'est une vision en tout cas ontologique, une vision anthropologique de fond, qui est conduite par Norbert Wiener et qui va imprégner en profondeur tout le milieu des nouvelles technologies jusqu'à aujourd'hui, même si on ne se souvient plus du nom. C'est l'idée selon laquelle notre monde est menacé de destruction, il est menacé par l'entropie. La question de l'entropie va être tout à fait fondamentale dans cette pensée, c'est-à-dire le désordre. Le désordre guette. L'entropie, vous savez ce que c'est un concept physique du 19e, un concept de thermodynamique qui a été importé ici dans le champ social. La mort étant la mort physique, la mort biologique étant la dégradation du biologique étant une preuve de cette dégradation qui guette l'humanité et qui est l'œuvre du mal. Alors, c'est très curieux chez Norbert Wiener parce que. Pardon, c'est vrai, les technologies me rappellent que ça fait 45 minutes que je parle et qu'il faut que j'accélère un petit peu malgré mon enthousiasme. Le monde des technologies tel qu'il est conçu ici est un monde très curieux, c'est un monde sans Dieu, mais par contre il y a une présence du mal. Et le mal, c'est l'entropie. Et les nouvelles technologies sont ici conçues comme la possibilité de faire reculer le désordre, alors on l'a vu dans le domaine de la prise de décision, mais aussi de faire reculer l'impact sur l'humanité de ce qui est le plus porteur de la dégradation, qui est la biologie, c'est-à-dire le corps. La biologie, c'est le corps. Et le corps est identifié très rapidement dans les nouvelles technologies comme la cible, comme ce qui fait obstacle, comme ce dont il faut se débarrasser pour pouvoir avancer. D'où cette obsession absolue, car c'est une obsession absolue, de la communication non corporelle, de la communication virtuelle, c'est-à-dire de la communication vertueuse. La communication vertueuse, c'est celle qui peut se dispenser du corps et qui peut transférer l'intelligence, car c'est l'intelligence qui ici est conçue comme étant le moteur du réseau, et on va aller jusqu'à parler d'intelligence collective, vous savez bien, ce terme va être tout à fait... C'est pour ça que Teilhard de Chardin fait irruption dans le discours, je dirais, à son corps défendant, là, pour le coup, dans ce débat. Et l'obsession des années 40, c'est comment transférer l'intelligence sur un autre support qu'un support biologique. Comment transférer... Alors, l'humanité est réduite à l'intelligence, ici, au cognitif. Comment transférer cela en se débarrassant de la scorie qu'est le corps? Alors, je m'articule ici tout à fait avec le texte de Michel Farin, hein, bien évidemment. Et quand on lit les textes fondateurs, les textes de ceux qui ont inventé l'ordinateur, c'est de ça dont ils nous parlent. Hein. Ils ne nous parlent pas de boulons, de machines et d'électronique. Ça sont les ingénieurs règlent ça dans un deuxième temps. Mais l'idée, l'inventeur de l'ordinateur, c'est von Neumann. Qu'est-ce que veut faire von Neumann? Il veut transférer dans une machine reproductible, non biologique, le raisonnement, le fonctionnement humain, la capacité de l'homme à se penser en réseau, puisque évidemment, on est la notion de réseau, l'homme n'est plus conçu comme un sujet individuel soudé à son corps, il est conçu comme, d'une certaine façon, une terminaison d'un grand réseau, d'un réseau social, qui est là donc en projection dans l'innovation technologique et qui arrivera un petit peu plus tard. Alors, j'avais prévu de parler très rapidement de cinq effets table rase pour que ça puisse, je peux rapidement le faire, j'ai l'autorisation, donc je n'en abuserai pas. Il y a cinq effets que je voulais souligner, on reviendra dans la discussion. Cinq effets concrets, mesurables aujourd'hui de ce type d'idéologie. Alors le premier, je l'ai dit, c'est le refus du corps, ça me paraît tout à fait central. Le refus du corps dans les nouvelles technologies, qui se traduit par des injonctions comportementales quotidiennes. Pourquoi se déplacer pour ? Pourquoi vous déplacer pour faire vos courses, pour faire un certain nombre d'activités, pour travailler, pour faire un certain nombre d'activités sociales ? Alors que vous pouvez le faire par l'intermédiaire, vous pouvez projeter quelque chose de vous-même dans le réseau, vous n'avez plus besoin de déplacer ce corps qu'on a du mal à déplacer d'ailleurs, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on vieillit, comme ça. Comment vous débarrasser de cette lourdeur pour vous rendre à cette légèreté que vous offrent les réseaux? Alors, vous voyez, on va ici faire des couplages, des couplages lexicaux qui vont évidemment orienter la perception, et avec cette idée que le mal est dans le corps, que la mortalité est dans le corps, et le rêve ultime, une de mes jeunes doctorantes qui est maintenant brillante professeure à l'Université de Montréal travaille sur la post-mère, sur l'immortalité, sur la façon dont les nouvelles technologies portent le rêve de l'immortalité, c'est-à-dire si on peut nous sortir de notre corps pour nous transférer sur un réseau techniquement modelable. Eh bien, vous avez au bout du compte ce point terminal de toute utopie qui est l'immortalité. Et évidemment, on est là dans la purgation du corps et de la biologie qui est sous-entendue dans ce monde des réseaux. Donc, refus du corps. Il y a un effet table rase, là, pour le moins. Hein. Un effet table rase. Débarrassez-vous de votre corps, vous laisserez de côté le mal. Vous laisserez de côté le mal. Le deuxième, c'est pas par ordre d'importance, mais c'est quand même un point fort, ça a été souligné par d'autres auteurs, effet table rase sur la nécessité d'assumer personnellement ce que l'on dit et ce que l'on est. Je viens de terminer pour un livre collectif un petit texte sur la signature, et question de la signature. Hein. Jusqu'à présent, nous signons ce que nous sommes, nous signons, pas uniquement au bas de la lettre, hein, mais nous assumons, nous nous engageons dans notre parole. C'est bien moi qui parle, moi avec mon corps, moi avec mon esprit, c'est bien moi qui m'exprime. Et on constate que dans le discours d'accompagnement des nouvelles technologies, on a une apologie tout à fait incroyable de l'anonymat. Enfin débarrassé de la nécessité d'avoir à assumer son identité individuelle pour se fondre comme une espèce d'acteur qui se promènerait par lui-même dans un grand ensemble collectif. C'était l'avatar, hein, l'avatar dans Second Life, ou le pseudonyme. Hein, dans les textes, le texte de Michel Farin cite pas mal d'exemples où sur les réseaux sociaux on n'a pas besoin d'être soi, hein, vous pouvez être n'importe qui, on peut se transformer en jeune fille de 14 ans, en vieux monsieur de 80, enfin peu importe, on peut tout faire, on peut tout simuler, Hein, on est ce que l'on dit qu'on est, mais on n'est pas ce que l'on est. Hein. Donc voilà, voilà une opportunité qu'offrent les réseaux de dissoudre l'identité dans une sorte de grand jeu collectif dans lequel chacun peut tour à tour emprunter les personnalités, les identités qu'il voudra. Il y a un discours tout à fait apologétique de ça. Alors, moi, je comprends que ça puisse fasciner. On peut se dire, voilà, une richesse, moi, je suis tout seul, il n'y a que moi. Et pourquoi ne pas être plusieurs, hein ? Ce serait formidable. Autre thème de l'utopie. Après l'immortalité, l'ubiquité. Je peux être plusieurs. Je peux être plusieurs. Et donc, la question de l'anonymat, table rase sur le sujet. Vous avez parlé de la correspondance tout à l'heure. Là, c'est un petit exemple concret, en même temps qu'il y a de très très fortes conséquences de cet effet table rase. Vous savez, on a inventé à la Renaissance, enfin on n'a pas inventé, mais on a beaucoup développé à la Renaissance quelque chose de très important du point de vue de la socialité, qui est la correspondance. Hein, la correspondance qui a été vraiment portée par cette période. Alors, correspondre avec les autres, c'est pouvoir régler le problème de la mise à distance. Ils sont loin, je ne peux pas lui parler, donc je vais quand même communiquer. Comment communiquer avec quelqu'un qui n'est pas là, hein ? C'est une vieille question. Hein. Socrate, il répond en disant « Oubliez la communication, parce que vous tout trahit. Hein. » Ce fameux texte de Phèdre de Socrate, qui est un texte absolument magnifique, qui ne s'oppose pas à l'écriture, d'ailleurs, comme conservation de l'information, mais il s'oppose à l'écriture comme... Il dit « L'écriture trahit, donc n'écrivez pas, quoi. Si vous ne voulez pas être trahi, n'écrivez pas. Si vous ne pouvez pas être en face de la personne et parler d'intériorité à intériorité, oubliez. » Et Socrate d'ailleurs renvoie à une vieille règle que personne ne connaît, sauf quelques spécialistes bien avertis, qui est que dans toute l'antiquité gréco-latine jusqu'à la dictature impériale, il y a une règle de fond qui organise toute la prise de parole publique et toutes les pratiques rhétoriques, c'est qu'aucun orateur, pendant ces 5 siècles, dans l'intense vie publique qui a eu lieu depuis Athènes jusqu'à la Rome républicaine, aucun orateur ne peut parler en lisant un texte. Personne ne l'écouterait. Ce serait une indécence grave. On ne le fait pas. Les archers citent le jetterait de la tribune. Pourquoi ? Ben, au nom du principe que pas de trahison dans l'intermède. Je parle, je vous parle. Avec le plus de proximité possible et évidemment le plus d'engagement corporel. Bon, le monde moderne nous a éloignés les uns des autres, donc a rendu nécessaire la communication à distance. Fini le temps des petites communautés, heureusement d'ailleurs, fini le temps des petites communautés archaïques qui s'ignorent les unes les autres ou qui se font la guerre. Donc à la Renaissance, on a inventé quelque chose de formidable, qui est comment se débrouiller avec l'écrit. Comment faire que l'écrit trahisse le moins possible ce que j'ai à dire. Voilà, c'est toute la culture épistolaire, c'est pas une culture de la politesse, cher monsieur, je vous prie d'agréer, c'est tout cet autour. Mais c'est la culture de se débrouiller avec la langue écrite, qu'il n'est pas facile, tout le monde le sait, pour qu'elle puisse enfin porter ma parole. On a mis 5 siècles pour arriver à quelque chose d'un peu tenable, qui fait qu'on arrive à peu près à s'écrire, quand on travaille bien ça. Enfin, on arrivait, parce que Internet est arrivé. Et Internet est arrivé en nous proposant un prolongement du système postal. C'est le système postal, le messager a le message, après le cheval porte le parchemin, après on envoie une lettre. Ben maintenant, aujourd'hui, on s'envoie des messages via Internet. C'est très bien, ça va beaucoup plus vite, plus rapide, c'est formidable. C'est une amélioration technique du système postal, hein, le courriel. Seulement, il y a une idéologie qui l'accompagne, qui guide l'usage et qui nous fait dire... Bon, écoutez, avec le courriel, table rase, écrivez comme vous le sentez. C'est une catastrophe. Les sociologues du travail nous disent c'est une catastrophe dans le monde de l'entreprise. Plus personne ne sait écrire un message, plus personne ne sait trouver le ton approprié au message, la posture appropriée. Alors voilà qu'on écrit à un supérieur en lui disant « Salut ». Est-ce que tu pourrais m'envoyer ? Moi, je reçois tous les jours des lettres d'étudiants qui s'adressent à moi. Je ne suis pas particulièrement mandarin, mais enfin bon. Voilà. Qui disent « Salut, je dois préparer un exposé pour demain sur votre livre. Est-ce que vous pourriez m'envoyer un résumé ?» Je me dis « À quoi a-t-il pensé ? Qu'est-ce qu'il pense de ce que je peux penser de ce qu'il me dit là ?» Ouais, je comprends l'enthousiasme. Il a un moyen, il fait vite, ça coûte 30 secondes. Il n'y a pas besoin de réfléchir à l'autre. Seulement, le problème de la communication, c'est voilà, l'autre est là. Hein. Et si on veut avoir une réponse de l'autre, il vaut mieux l'incorporer dans ce... faut l'accueillir hein, dans son... Tout message envoyé doit accueillir l'autre. C'est ce qu'on a appris pendant 5 siècles, et même avant. Le discours d'accompagnement nous dit non, vous oubliez tout ça, d'ailleurs vous n'êtes plus des sujets, vous êtes des communicants, donc on communique le plus simplement possible. Très bien, le résultat c'est la violence, c'est ce qu'on a constaté dans l'analyse des correspondances dans les entreprises, c'est la violence, ça génère du contresens, de la violence. Plus on répond vite, plus on se trompe. Et on est obligé de revenir aux vieilles consignes que moi je donne toujours, qui est de dire, si vous avez un message important à écrire, écrivez-le et laissez-le reposer 24 heures. C'est-à-dire à peu près l'équivalent du timbre d'avant. Hein. Pour échanger des informations, ça va. Mais pour engager des relations, là, attention, il y a quelque chose qui... Alors, on voit bien, c'est un très bon exemple, la correspondance, très concret, d'une formidable possibilité technique, et en même temps, d'un discours d'accompagnement qui vient, je dirais, orienter l'usage que l'on en a et nous emmener vers des effets de rupture qui n'étaient pas forcément souhaitables. Deux autres effets table rase, rapidement. Le premier, moi, me paraît assez important pour que on y attache, mais on commence à y attacher de l'importance. Mais j'ai fait partie de ceux qui ont commencé à se battre là-dessus il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, on disait, mais écoutez, non, vous êtes rétrograde, etc. C'est l'idée sur laquelle Internet, deuxième monde, pourrait enfin se débarrasser des limites de notre premier monde, le réel, qui, vous le savez, est encarcéré par la loi, et notamment la loi humaine, la loi juridique. Sur Internet, enfin, nous pouvons être libres. Thème d'utopie, je passe une nouvelle frontière, hein. Internet a été présenté aux États-Unis comme une nouvelle frontière, un monde, un Far West, un vrai Far West où tout le monde serait libre, mais où il n'y aurait pas de violence. L'équation est difficile à construire. Bref, Internet est une zone de non-droit. Vous pouvez copier, pirater, tout message considéré comme illégaux dans votre pays d'origine peut être abrité par un autre pays et accessible dans le pays d'origine. On est sur une zone de non-droit. Alors, je dirais que ce n'est pas grave parce qu'on découvre une nouvelle technologie, c'est normal qu'il y ait... il y a un ajustement normal. Mais ce qui est par contre problématique, c'est le discours qui accompagne ça, qui dit qu'il ne faut surtout pas remettre des lois sur Internet. Les gens sont assez libres, les gens sont assez responsables, donc vous pouvez exposer n'importe qui à n'importe quel message. Et ce qui va faire la valeur d'un message, c'est sa valeur d'usage. Une bonne information sur Internet, c'est une information qui est lue par le maximum de gens. Là, il y a un effet table rase par rapport à ce que nous pensions naïvement être la substance de l'information, c'est-à-dire son rapport au réel. Ce qui fait, dans le monde d'Internet, la valeur d'une information, ce n'est pas son rapport descriptif au réel, c'est pas le fait qu'elle rende compte du réel. D'ailleurs, souvent, il y a quelqu'un qui donne sa garantie au passage, hein, qui s'engage. On retrouve là évidemment la question de l'anonymat. L'information est anonyme. Et sa valeur, c'est la valeur d'usage. Vous savez, ce qu'on appelle le journalisme citoyen, cette formidable formule, qui cache des réalités absolument étranges. Hein. Le premier, je ne me souviens plus de son nom, le premier américain qui avait lancé le journalisme citoyen, qui avait lancé le journalisme citoyen, avait dit au fond moi, je me fiche de vérifier une information. La valeur de l'information, c'est si les gens s'en emparent. C'est ça qui fait la valeur de l'information. Alors on voit que, de ce point de vue-là, il y a évidemment un problème. Je ne parle pas de Wikileaks parce que je n'ai pas le temps, mais j'aurais beaucoup de choses à dire sur Wikileaks, qui est un site de ce que nous appelions avant, et là, on est en train de vivre sous nos yeux, dans l'année qui vient de précéder, un détournement linguistique. Wikileaks est un site de délation. C'est un site de délation. C'est-à-dire, vous avez quelque chose à vous voulez faire une délation anonyme, ben vous écrivez à Wikileaks, ils vont vous ouvrir les serveurs à bras ouverts, si je puis dire. On pourra y revenir dans la discussion. Le cinquième point, je termine là-dessus, c'est le plus fondamental, mais tout ce que j'ai dit y prépare. C'est la question ontologique de fond, et le texte, ce magnifique texte que vous m'avez fait découvrir, je vous en remercie, sur la fin de la solitude. Hein, magnifique texte. Moi, je repère depuis 50 ans un mouvement qui... tente de déplacer la définition ontologique de l'humain, et l'effet table rase ici porte sur la question de l'intériorité, c'est-à-dire débarrassons-nous de l'intériorité. L'intériorité, c'est ce qui empêche l'homme d'accéder au réseau. L'intériorité est évidemment couplée à la question de la solitude ou à la question de l'espace privé. Alors l'intériorité, je n'insiste pas sur les 2000 ans que nous avons mis à construire cette métaphore de progrès, qui ne s'oppose en aucun cas d'ailleurs à la socialité. Jamais l'intériorité n'est conçue, sauf cas très particulier du mysticisme, n'est jamais conçue comme une opposition à la socialité. Par contre, aujourd'hui, nous avons un modèle de socialité de réseau qui a été magnifiquement défini en une formule par Gregory Bateson, qui était un des premiers anthropologues cybernéticiens, qui dit qu'est-ce qu'un homme ? C'est quelqu'un qui réagit à une réaction. C'est un réacteur. Qu'est-ce qu'un homme ? Ben, c'est tout simplement un individu, hélas biologique, encore biologique, qui réagit aux réactions que provoque... C'est-à-dire, on est dans... C'est le sujet social idéal, c'est le sujet idéal du sociologue, sujet purement social, qui n'a plus d'intériorité, qui n'a plus d'individualité. Là encore, on retrouve ce thème de l'utopie. Donc un des enjeux actuellement dans le discours d'accompagnement d'Internet, c'est évidemment de réfléchir, de savoir quelle place est laissée dans l'usage des réseaux Internet à la question de l'intériorité par rapport à la nécessaire socialité. C'est Henri Miller qui disait, que l'individualité est la rencontre des mondes intérieurs et des mondes extérieurs. Et je crois que là, il y a un discours d'accompagnement, il y a une poussée qui nous rapporte uniquement sur la socialité et ce que j'appelais tout à l'heure le collectivisme. Voilà, donc les 5 points, 5 effets table rase, on aurait pu chacun les commenter, faire une conférence. J'espère que vous n'avez pas trouvé mon propos trop critique vis-à-vis des nouvelles technologies, car ce n'est pas aux nouvelles technologies que je m'adressais ici, puisque je vous ai proposé initialement une distinction entre les nouvelles technologies, qui sont ce que nous en faisons, et les systèmes de représentation qui en guident l'usage. J'ai voulu simplement ici donner quelques éléments de décryptage de quelques discours dominants sur les nouvelles technologies. Je vous remercie.